Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue à Accent du Monde ce soir. C'est avec Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne.
Bonne nuit.
À propos de la prison, de la mise en prison de l'ancien, de la sortie de prison de l'ancien président Michel Temer. Pour la rédaction en anglais, Anne-Marie Bissada.
Good evening.
Pour le procès de l'Ougandaise Stella Nyanzi. Alireza Manavzadeh de la rédaction persane.
Durut Bachum.
Pour les répercussions internationales qui a provoqué une autre condamnation, celle-là de l'avocate Nisrine Sotoudeh. Bonsoir à vous tous. Avant cela, intéressant. Passons-nous à l'attentat terroriste commis contre une mosquée à Christchurch. Ce vendredi a été rendu un hommage national aux 50 musulmans abattus dans ces deux mosquées par un extrémiste australien. La Nouvelle-Zélande a observé 2 minutes de silence. Dans le même temps, des fidèles musulmans défilaient par exemple à Nanterre, en région parisienne, contre l'islamophobie. Alors, le tueur a assassiné en direct sur Facebook et d'autres réseaux sociaux parce qu'il était équipé d'une caméra fixée sur sa poitrine. Anne-Marie Bissada, que s'est-il passé dans les heures qui ont suivi ce massacre ?
En fait, le jour après l'attentat du dimanche, l'antenne australienne de Sky News a été coupée en Nouvelle-Zélande parce qu'il n'a pas suivi les interdictions de pas diffuser la vidéo faite par le tueur pendant le carnage. Alors après, la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a fait deux choses qui ont beaucoup touché le monde anglophone et même dehors. D'abord, elle a refusé de prononcer le nom du tueur pour éviter de lui donner trop d'importance. Et deuxièmement, et contrairement aux exemples des États-Unis où après un attentat semblable qu'on voit souvent, soit dans une école ou ailleurs, on entend dire souvent « priez pour nous » et essayons aussi d'imposer les nouvelles lois pour mieux contrôler l'achat et vente des armes, mais rien ou très peu a changé. Pourtant, Ardern a fait exactement le contraire de ça. Elle ne voulait pas rester au niveau des mots, des prières, mais plutôt de réagir. Alors, elle a vite fait imposer une nouvelle loi qui sera adoptée dans 3 semaines. Cette loi interdit tout arme semi-automatique et fusil d'assaut. Et en plus, elle a mis en place une opération de racheter les armes qui sont déjà chez les gens, soit pour des raisons de sécurité ou pour la chasse. Et apparemment, cette opération pour payer peut coûter le pays à près de 200 millions de dollars, soit 120 millions d'euros.
Et cela a retenu également votre attention, Lucia Mouzel, à la réaction brésilienne.
Oui, tout à fait, bien sûr. Il faut dire aussi que le pays, la Nouvelle-Zélande, était très flexible sur ces thèmes avant, jusqu'à cette tragédie. La législation néo-zélandaise avait permis que le tireur puisse acheter en toute tranquillité l'arsenal ayant servi à cette attaque. Et donc la réforme de la loi sera présentée au Parlement début avril, mais dès maintenant, des mesures provisoires font que l'interdiction de facto en fait soit déjà en vigueur.
Anne-Marie Bissada, la Turquie a réagi très rapidement après ce massacre. Sa position mérite d'être commentée.
Oui, tout à fait. Déjà, le président de la Turquie, Recep Erdogan, il a mis pas mal des Néo-Zélandais en colère après avoir utilisé la vidéo prise par le tueur pour une campagne électorale locale. En plus, il a demandé à la Nouvelle-Zélande de rétablir la peine de mort pour le tueur. En réponse, Ardern a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Winston Peters, en Turquie pour bien régler la situation et minimiser les malentendus. En gros, il passera le reste de sa vie en prison si le tueur est condamné. Et par ailleurs, aujourd'hui, Erdogan a convoqué un sommet de l'organisation de la coopération islamique à Istanbul. Il voulait souligner que le monde entier exige le moins des efforts pour combattre l'islamophobie que l'antisémitisme. Il disait, comme l'humanité s'est luttée contre l'antisémitisme après la Shoah, elle doit faire pareil pour lutter contre l'islamophobie. Mais il a aussi remercié la première ministre néo-zélandaise pour son empathie et surtout pour sa solidarité avec les musulmans.
Alireza Manavzadeh, de la rédaction persane, comment a réagi, on vient de voir la Turquie, comment a réagi l'Iran ?
Les autorités iraniennes l'ont certes condamné, mais de façon un peu biaisée. Mohammad Javad Zarif, ministre des Affaires étrangères, a accusé sur Twitter les démocraties occidentales d'encourager la propagande anti-musulmane sous prétexte de liberté d'expression. Il a demandé aux pays occidentaux de mettre fin à cette duplicité. D'après lui, les pays occidentaux favorisent ce genre de fanatisme.
Alors peut-être fait-il allusion à la théorie du grand remplacement que le terroriste a mis en avant pour justifier son acte et à comparer l'immigration en Europe à une invasion.
Peut-être, comme vous le savez, selon cette théorie, il y aurait un grand remplacement de la population autochtone en Europe, notamment en France, par une population d'origine immigrée. Ce remplacement serait même voulu et organisé par les élites. C'est une théorie mise en avant par l'extrême droite, parfois même la droite, parce que un grand nombre d'immigrés défavorisés vivent dans des ghettos où aucun Français ne veut vivre. En fait, ce n'est vraiment pas une théorie, c'est plutôt une hypothèse. Hervé Lebras, démographe, ou Patrick Simon, sociodémographe, et bien d'autres scientifiques l'ont réfuté, chiffres à l'appui, mais malheureusement, les polémistes et les démagogues l'utilisent à tout bout de champ.
Oui, mais dans une démocratie où le principe de la liberté d'expression est la règle, il est difficile d'interdire la propagation de ce genre d'hypothèse, son utilisation par des gens qui sont mal intentionnés.
Tout à fait, mais à condition que les médias accordent autant de temps aux chercheurs et aux scientifiques honnêtes pour déconstruire méthodiquement et avec un langage accessible à tout le monde ce genre de soi-disant théorie véhiculée soit par les polémistes mal intentionnés, soit par certains intellectuels irresponsables qui veulent à tout prix être sur le devant de la scène. L'attentat horrible de Christchurch nous a montré comment les affabulations intellectuelles sur certains sujets pouvaient être dangereuses.
Et puis, on le disait, Lucia, le gouvernement de Nouvelle-Zélande a décidé l'interdiction des fusils d'assaut. Au Brésil, cela fait également débat, d'autant que quelques heures après le massacre de Christchurch, il y a eu une tuerie dans une école au Brésil, et la question de l'accès aux armes au Brésil a été reposée.
Oui, tout à fait, parce que deux jeunes ont tué par balle 8 personnes avant de se suicider dans une école de l'agglomération de la ville de São Paulo. Parmi les victimes, on retrouve 6 enfants. Il faut le dire, hein, que les fusillades dans les écoles sont très très rares au Brésil, malgré la violence quotidienne impliquant les armes à feu là-bas. Ces drames a rouvert donc le débat sur le port des armes. Je vous rappelle que la première mesure du gouvernement du nouveau président Jair Bolsonaro était justement la signature d'un décret pour assouplir les règles de détention des armes à feu, comme il l'avait promis lors de la campagne. Dans son radar, il vise l'autorisation du port d'armes dans les rues et pas seulement à la maison pour se défendre son logement, comme c'est le cas actuellement. Mais ses opposants et la plupart des organisations contre la violence sont d'accord pour dire que cette mesure ne fera que augmenter le nombre de morts.
Et un sénateur brésilien a soutenu que le port d'armes devait être accordé aux professeurs alors qu'ils donnent cours en pleine classe.
Exactement, c'est des propos que normalement on retrouve auprès de la droite américaine. Et c'est un des principaux alliés du président Jair Bolsonaro qui a soutenu ces propos. Il pense que les drames auraient pu être évités si les professeurs étaient armés, même si les victimes ont été à temps en pleine cour de récré. Hein. Et plusieurs hommes politiques du parti présidentiel pensent effectivement que le plus les citoyens seront armés, le plus ils pourront se défendre lors d'un vol ou d'autres types d'attaques. Cette semaine, on a vu Bolsonaro était aux États-Unis, il a rencontré Donald Trump, son grand idole dans la scène internationale. Bolsonaro et son camp évoquent régulièrement la position des États-Unis pour défendre le port d'armes pour tous. Ils oublient que les fusillades tuent des centaines de personnes tous les ans en territoire américain. En 2018, par exemple, plus de 300 fusillades ont eu lieu là-bas.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Il y a une douzaine de jours, la justice iranienne a condamné l'avocate Nasrin Sotoudeh à 38 années de prison, à 148 coups de fouet. La sentence a été prononcée selon son mari par un tribunal révolutionnaire à une date qui reste inconnue, en l'absence de la principale intéressée. Alireza Manavzadeh, parlez-nous d'abord de cette femme, de son combat, donc Nasrin Sotoudeh.
C'est une avocate de 55 ans qui, depuis le début de sa carrière, n'a cessé de lutter contre l'absurdité de la justice iranienne. Lauréate du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit en 2012, elle a défendu courageusement des manifestants emprisonnés et des jeunes femmes qui ont défié l'année dernière les lois de la République islamique en se dressant sans voile dans l'espace public. D'après son mari, elle a été condamnée pour 7 chefs d'accusation. Les 38 ans de prison sont en fait l'addition d'une série de peines dont la plus lourde est requise pour incitation à la débauche. Pour celle-ci, elle doit passer au moins 10 ans derrière les barreaux et subir 148 coups de fouet. Elle a refusé de faire appel.
Et la rédaction persane de RFI a interrogé récemment Shirin Ebadi, la célèbre avocate iranienne au prix Nobel de la paix, exilée depuis 2009 à Londres.
Oui, elle connaît personnellement Nasrin Sotoudeh, à laquelle elle rend hommage dans son interview.
تمام فعالیت های ایشان از بیش از 25 ساله که من خانم ستوده رو میشناسم.
Que vous a-t-elle expliqué?
Effectivement, elle dit toutes les activités de Nasrin Sotoudeh depuis plus de 25 ans que je la connais ont toujours été dans le but de faire respecter les droits de l'homme en Iran. Pour ne pas fournir de prétexte au régime et à des agents de sécurité, elle a toujours essayé d'agir dans le cadre de la loi. La principale raison de sa condamnation qu'elle a défendu les jeunes filles qui ont bravé l'année dernière le régime en se dressant sans voile dans l'espace public.
Alors, dans le monde entier, cette condamnation a suscité de très vives réactions, autant de condamnations d'ailleurs. La France aussi n'a pas tergiversé pour commenter cette peine qui a été infligée à Nasrin Sotoudeh.
Bien sûr, même avant que la justice iranienne ne fasse connaître la condamnation de l'avocate, le président Macron l'avait invité à faire partie du conseil consultatif du G7 sur l'égalité des genres. C'était le 13 février. Une pétition a été lancée en France par le Conseil national des barreaux pour demander sa libération. Le 13 mars, les députés français lui ont consacré une ovation à l'Assemblée nationale. Des députés de tous bords se sont alors levés pour applaudir la militante.
À 5000 kilomètres d'ici, une femme vient d'être condamnée à 38 années de prison à l'issue d'un procès inique. 38 années de prison et 148 coups de fouet.
C'était donc cette semaine à l'Assemblée nationale française. Merci à vous, Ali Reza Manafzadeh de la rédaction persane de RFI. Intéressons-nous maintenant à ce qui s'est passé en Ouganda, à savoir le procès du docteur Stella Nyanzi. Cet activiste de la communauté LGBT a comparu à Kampala. Ce tribunal décidera si elle est coupable des accusations qui lui sont infligées. En novembre, elle avait été arrêtée, jetée en prison parce qu'elle était accusée d'avoir harcelé le chef de l'État sur Internet, ce qui tombe sous le coup de la loi Computer Misuse ou l'abus de l'ordinateur. Anne-Marie Bissada du service anglophone, ce sont des accusations assez fortes. Elles sont liées à quel crime exactement?
En fait, cette histoire a commencé le jour de l'anniversaire du président Yoweri Museveni, le 16 septembre 2018. Avant de rentrer dans les faits, il faut souligner une tradition unique en Ouganda qui s'appelle Radical Rudeness ou l'impolitesse radicale. Cela existe depuis les années 40, avant que le pays accède à l'indépendance vis-à-vis l'Angleterre. Et l'idée, c'était de se moquer des gens en public en utilisant des mots vulgaires et impolitesse pour aller contre la culture anglaise qui est plutôt très conservative et polie. Alors dans le cas de Nyanzi, elle a posté sur son compte du Facebook un poème dédié à Museveni.
Un poème, Anne-Marie Bissada, dites-nous en plus.
Il s'agit de 7 paragraphes dans lesquels elle joue avec les mots pour cibler et se moquer du chef de l'État. Je vous lis une ligne. Yoweri, they say it was your birthday, how nauseatingly disgusting a day. Que l'on peut traduire ainsi. Yoweri, ils disent que c'était votre anniversaire, quelle journée dégoûtante qui me donne de la nausée.
Alors, quel est donc ce poème qui provoque toute cette polémique finalement?
Oui, son avocat Isaac Semakade explique comment ça a provoqué cette polémique.
And that poem is deemed by the director of prosecution in Uganda to be obscene,
Donc son commentaire.
Alors il disait que selon la première accusation, le procureur du Ouganda affirme que ce poème est bien obscène, lubrique et indécent concernant la loi de l'abus de l'ordinateur. Selon la deuxième accusation, il expliquait que le poème va contre la section 25 de la loi qui inclut une perturbation de la paix, une perturbation de la vie privée et une perturbation de la solitude d'une personne parmi plusieurs reprises de la communication électronique. En gros, il disait qu'à cause de ce poème, la victime, alors dans ce cas le président, se sentait blessée et dérangée.
Alors ça veut dire qu'il y a des lois qui interdisent de poster certaines choses sur les réseaux sociaux ?
Ben, c'est justement le but de ce procès, et surtout de cette loi. C'est la première fois que le procureur l'utilise contre quelqu'un. Alors beaucoup de gens voient ce procès comme un vrai test de la liberté d'expression en ligne, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Et en plus, ce procès souligne un autre problème lié à la gestion des comptes des réseaux sociaux. Comment le gouvernement peut-il avoir accès aux informations d'une personne? Alors Rosabelle Kagwimer, une journaliste et activiste ougandaise, explique.
Very important case on how it relates to data and surveillance.
Que vous a-t-elle dit?
Elle explique que l'enquêteur a vérifié que Nianzi a bien été l'auteur du poème en utilisant des méthodes liées à l'information issue de son téléphone. C'est-à-dire que le gouvernement a pu prendre ses data personnelles pour bien vérifier l'activité de quelqu'un soupçonné sans avoir une autorisation, qui est le cas avant que les policiers vont chercher un lieu suspect.
Anne-Marie Bissada, j'ajoute que le procès va probablement durer 2 mois et que Nianzi a décidé de rester en prison, même si elle avait le droit d'en sortir d'ici le verdict. La politique au Brésil n'en finit pas de réserver des surprises et des surprises de taille. C'est ainsi que l'ancien président Michel Temer, qui a quitté ses fonctions en décembre dernier, a été arrêté cette semaine. De quoi est-il inculpé, Lucia Mouzel?
Alors, Michel Temer est suspecté d'avoir participé à une dizaine d'affaires de corruption avant et pendant son gouvernement. Son arrestation préventive répond à l'enquête sur dépôt de 20 millionnaires sur la construction des 2 usines d'énergie au Brésil. En fait, tout le monde savait que son incarcération n'était qu'une question de temps, tellement le parquet enquête sur lui dans tous les sens. Mais cette arrestation, Philippe, suscite la polémique pour certains. Les raisons évoquées pour les juges sont à la limite de la légalité. Les juges disent que M. Temer a été incarcéré car il était susceptible de détruire des preuves contre lui.
Alors, cette arrestation peut révéler une nouvelle fois les abus de la justice dans le cadre de cette opération contre la corruption en place au Brésil depuis maintenant 5 ans. C'est ce que disent les critiques de l'opération Lava Jato. Expliquez-nous d'abord Lava Jato, ça veut dire main propre, non?
On n'a pas vraiment...
Il n'y a pas de traduction.
Alors, vous vous souvenez, M. Temer, il est le deuxième ancien président brésilien à être incarcéré après Lula, qui est en prison depuis presque 1 an. Donc, ses partisans dénoncent une prison politique, car jusqu'à présent, il n'aurait toujours pas de preuves de la corruption de Lula. Donc, maintenant, c'est pareil. Les critiques de l'opération Lava Jato disent que juridiquement, la prison de Temer serait arbitraire. En réalité, il s'agirait d'une dispute de pouvoir entre le président de l'Assemblée et l'actuel ministre de la Justice, Sergio Moro, qui en l'occurrence est l'ancien juge qui a mené l'opération Lava Jato avant d'être ministre. C'est pour cela que parmi l'opposition, nombreux sont ceux qui ne sont pas d'accord avec cette arrestation, même les adversaires de Temer. L'ancien député de gauche, Jean Willis, en est un exemple. Nous avons interviewé lui ici dans nos studios cette semaine.
A minha opinião é que a prisão de Temer não passa de um cabo de guerra entre as facções que deram o golpe de 2016.
Donc pour lui, l'incarcération de M. Temer n'est qu'une partie de tir à la corde entre les 2 factions derrière le coup d'État de 2016, selon lui. Et 2 groupes se sont bénéficiés de la sortie de l'ancienne présidente Dilma Rousseff, qui était au pouvoir. Il dit que cette prison a eu lieu juste après que le ministre Moro soit démoralisé en public par le président de l'Assemblée. Et la prison de Temer ne serait donc qu'une réponse de Moro à cette dispute pour montrer que l'opération Lava Jato reste puissante. Il pourrait donc toucher des parlementaires de droite aussi et pas seulement de la gauche.
Au bout du compte, est-ce qu'on peut dire que le président Jair Bolsonaro s'est renforcé tout cela?
Ah oui, c'est clair, parce que pour lui, il veut dire qu'il mène la lutte contre la corruption avec tout le monde. Personne ne sera épargné, n'importe quel parti. Et donc pour lui, c'est sûr, il est sorti en renforce de cette affaire de la prison de Michel Temer.
Merci Lucien Mouzel de la rédaction brésilienne de RFI. Voilà pour Accent du Monde, ce qui fait l'actualité dans le monde vu par les rédactions étrangères de Radio France Internationale.